RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct tous les jours de 9h à midi, les grandes gueules avec aujourd'hui Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Nous sommes avec notre agriculteur de Saône-et-Loire, Didier Giraud, qui est de la partie, qui est avec nous aujourd'hui, et puis l'ancien ministre Jean-Baptiste Djebbari, qui est aujourd'hui dans le privé, président de Opium, société qui construit des voitures hydrogène. Le coffre, il est à côté de moi, les amis. Le coffre, peut-être pour gagner l'iPhone 14 tout à l'heure, ou des AirPods si vous êtes un peu joueur. Sinon, dans l'enveloppe RMC, vous avez des AirPods ou bien une Apple Watch. Si vous voulez tenter l'iPhone 14, vous me dites, allez Alain, on ouvre le coffre et puis on verra ce qu'il y a dedans. Quel jour on est aujourd'hui ?
On est mercredi.
Le mercredi, c'est un jour
tout
que je sens
permis.
Bien moi aujourd'hui.
Le mercredi,
tout est permis.
Oui. Hein ?
Bon, en attendant, vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous jouez et vous gagnez tout à l'heure et vous passez en direct à 11h20 dans les grandes gueules. De quoi va-t-on parler maintenant dans les GG, dans les grandes gueules ? De la Poste qui ne livre plus le quartier de la Bricarde à Marseille. Abandon pour question de sécurité. Est-ce que vous le comprenez ? La Poste, je le rappelle, au cas où il y ait des petits oublis, une amnésie partielle, c'est un service public. Allez, on y va.
RMC, les grandes gueules.
De quoi s'agit-il ? Il s'agit de nouveau de Marseille qui défraye la chronique.
Oui, les habitants du quartier de la Bricarde, c'est dans le nord de la ville, je passe la responsabilité et le regard de Kaouter. Les habitants du quartier ne reçoivent plus leurs colis. Depuis plusieurs mois, la Poste a décidé d'arrêter de livrer les colis face à l'insécurité grandissante dans ce quartier. C'est une zone visiblement de trafic de stupéfiants, d'enlèvements plein jour. Bref, la sécurité des agents ou des marchandises est en jeu, et c'est pour protéger à la fois les agents et les marchandises que la Poste a pris cette décision. Donc, dans l'attente peut-être d'un retour des facteurs, les 2500 habitants de ce quartier sont obligés de se rendre au bureau de poste pour récupérer leurs colis. Alors, réaction de Samia Ghali, la maire adjointe de Marseille, c'était d'ailleurs sur RMC, elle dit c'est pas du tout la bonne explication. En fait, la direction de la Poste se sert de ce genre d'argument pour fermer partout. Alors, visiblement, ils ont fermé aussi la Castellane, aux Égalades, et maintenant donc à la Bricarde. Et en fait, elle dit que la Poste veut privatiser, c'est pour ça qu'elle n'est plus dans ces quartiers. Alors, qui a raison ? Est-ce que c'est Samia Ghali ou est-ce qu'effectivement, il y avait problème d'insécurité ? Et on peut comprendre l'entreprise qui protège à la fois sa marchandise et ses agents.
Alors,
Madame la Marseillaise.
C'est alors,
la Bricarde, ça craint comme quartier ?
Au départ, enfin moi je suis née pas loin, c'est dans des bidonvilles. Au départ ça crème pas. C'est pareil dans toutes les cités en fait, de France et de Navarre, pas qu'à Marseille en fait. C'est que y a une paupérisation, tu vois, et au-delà de la paupérisation, tu as depuis une bonne vingtaine d'années les narcotrafiquants qui ont pris possession de ces territoires.
Ah oui.
Voilà.
Donc ça craint.
Ça craint, mais avant que ça craigne pour les agents de la Poste, ça craint pour les habitants. Je rappelle à Samia qu'à la Bricarde, parce qu'elle a peut-être oublié, elle n'était pas encore maire adjointe, elle était juste maire de ce secteur, parce qu'elle a été deux fois maire de ce secteur, que ça a tiré dans les écoles, que les enfants étaient en cours et qu'il y a eu des règlements de compte, on avait parlé. Donc c'est de la Bricarde. Et c'est en face de la cité La Castellane, d'où est originaire Zinedine Zidane, qui est le plus gros point de deal de toute la ville. Je crois qu'ils gagnent 100 000 euros par jour, les gars. Donc, à un moment donné, il faut aussi être honnête. Donc, oui, c'est un service public, mais oui, il faut être honnête. Les agents, et oui, ça ferme les postes partout. Hier, j'ai eu une délogée au téléphone qui me disait qu'elle montait. Donc, elle habite quasiment dans le centre-ville, mais la poste d'où elle habite a fermé. Donc, au lieu d'aller à la poste qui est à 1,5 km dans le centre-ville, ils l'ont envoyée transférée à la vis, donc dans les quartiers nord aussi, tu vois, pour aller retirer son argent là-bas. Parce que la Poste, c'est quand même la banque des pauvres, tu vois. En fait, c'est le service public de tous les pauvres. Donc oui, il y a un problème de sécurité pour les agents de la Poste, mais il y a un problème de sécurité pour les livreurs, pour les pharmaciens. Il y a plus de services publics dans ces cités. Il y a l'école, si elle y est encore. Et l'école, il faut voir dans quel état elle est, dans quelles conditions les enfants y vont. Donc c'est difficile pour les enseignants, c'est difficile pour les habitants.
Tu comprends les agents.
Je comprends que les agents exercent un droit de retrait, mais je comprends aussi ces habitants qui sont aujourd'hui dans une situation qui est inextricable, tu vois, et où il faut faire des kilomètres pour aller chercher un colis ou pour quoi que ce soit, en fait.
Bon, écoute, je vais pas juger ce contexte-là parce que tu nous l'as bien expliqué. Moi, je sais aussi qu'il n'y a pas besoin d'être dans une zone de non-droit pour subir le désengagement de la Poste, quoi.
Tout à fait.
Le désengagement de la Poste, il est plus ou moins généralisé. Alors,
toi, en Saône-et-Loire, notamment.
Dans les zones rurales un peu désertifiées. Moi, j'ai des bureaux de poste autour de chez moi qui travaillent en alternance. C'est-à-dire un ouvert le matin, dans le village d'à côté, ouvert l'après-midi. Et de temps en temps, ils s'amusent à changer l'ordre, quoi, tu vois. Avec des horaires qui sont quand même des horaires de la Poste. Si t'as besoin de te rendre au guichet, il faut que tu te libères avant 16h15. Quand même relativement pratique quand t'es chef d'entreprise d'aller à la poste avant 16h15 et trouver le bon bureau de poste dans le bon village qui est ouvert. Voilà, tout ça pour dire, et je critique pas les agents de la poste qui font un métier pénible, à qui on a rajouté des contraintes.
C'est vrai.
C'est des gens qui avaient un rôle social avant, quoi. Le facteur, il prenait le temps. Il prenait le temps de discuter avec les gens qui restaient
pas
chez eux.
Dans les grandes villes, hein, plutôt.
Non,
dans les
mais
villages,
je te parle du milieu
non,
rural où ça se désengage à plein, là. Des gens qui étaient seuls chez eux. Ils pouvaient amener les médicaments. Il avait un petit rôle social qui était le lien. Et aujourd'hui, on leur demande de faire du rendement. On leur agrandit leurs horaires. Et on leur demande de faire payer ces services-là. Alors que les postiers qui ont un certain âge, ils faisaient gratuitement ce service-là. Mais et je trouve que les agents de la Poste sont maltraités dans un contexte de désengagement.
Didier, le monde a changé. Il y a 30 ans, t'attendais ta lettre chaque matin. Aujourd'hui, t'as quasiment plus de lettres. Donc, oui. La Poste, ils font quoi? Ils font des colis essentiellement en physique et puis ils font des services digitaux. Enfin, on peut tout à fait le regretter, mais pour le coup, le monde a vraiment changé. Philippe Val, c'est un patron. Le patron de la Poste, c'est un mec extraordinaire. On critique souvent les patrons d'entreprises publiques. C'est un mec extraordinaire et qui a une vision extrêmement claire, qui est très attaché au service public. Il essaye de prendre...
De rentabiliser, mais ça je comprends.
Non, de ce changement comme de monde, de société, de façon de faire les choses et de garder de l'humain, de garder du contact, de la proximité. Par ailleurs, il y a un sujet de
courrier. Mais moi, je vais proposer autre chose.
Mais attends,
au lieu de fermer un bureau de poste sur
justement,
deux, pourquoi on fait pas un bus itinérant qui fait le service?
Moi, je me suis occupé... Enfin, il y a un vrai sujet de désengagement des services publics dans la ruralité, les ruralités en général. Une des missions dont je me suis occupé, c'était de regarder comment... Les gares, par exemple, qui sont vraiment des lieux centraux, pouvaient accueillir à nouveau un petit service postal,
pourquoi
la CAF, du service public. Et ça, il faut remettre ça au cœur de la vie des gens. Et...
Oui, mais à Marseille, qui a raison? Est-ce que c'est Samia Ghali qui dit la Poste, de toute façon, s'en fout, c'est pas rentable, elle veut partir de ses quartiers, ou est-ce que c'est un vrai problème?
Mais c'est un peu les deux. Samia, je t'ai dit, elle a quand même appelé après si elle n'est pas d'accord, je m'en fous. Elle est malhonnête parce qu'elle-même, elle avait pris la parole. C'est des quartiers où ça craint, c'est des quartiers où ça tire, c'est des quartiers aussi où avant, les narcotrafiquants étaient tenus par des mecs du quartier. Ils se sont entretués, c'est des mecs qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent même pas les habitants.
Non, mais attends, Jean-Baptiste, il a raison de dire qu'on n'envoie plus de courrier.
Non, mais non,
et aujourd'hui,
et que le désengagement de la Poste est logique.
Vois, bah oui, c'est sans histoire.
Il y a un problème, dans les grandes villes en tout cas, dans les petites, je ne sais pas, je ne connais pas, il y a un problème de rente. Avant, il y a quelques années encore, quand tu recevais un recommandé ou un colis, moi je n'habite pas dans une zone de non-droit, j'habite en centre-ville. On sonnait. Moi, j'ai été longtemps alité, donc longtemps chez moi. Je suis désolée, quand je descendais pour aller chez mon fils à l'école, je trouvais le reçu du postier parce qu'il te sonne même plus, parce qu'il y a aussi un problème où ils doivent être de plus en plus performants, où ils ont de plus en plus à faire dans leur tournée, où ils sont pas formés, où c'est plus des statutaires, c'est des contractuels.
Ce qu'il faudrait savoir pour comparer.
Il y a tout aussi, tu vois.
Pour comparer l'aspect sécurité et livraison, aujourd'hui, t'as Amazon qui livre beaucoup de colis. Il faudrait savoir, par exemple, ce que fait Amazon à la
Amazon livre à la bricarde.
C'est ça qu'il faut. C'est à ça qu'il faut.
Est-ce que tu es sûr de ça?
Ah ben, c'est ce que j'ai lu dans 3 articles ce matin.
Ils livrent les dealers?
Je sais pas, mais Amazon, visiblement, enfin Amazon, les sociétés de livraison qui travaillent,
ils
livrent les colis Amazon,
bon, parce que
c'est pas les camionnettes Amazon, hein,
voilà.
C'est des sous-traitants qui
non,
sont là.
Non, c'est des sous-traitants, et moi je vais te dire la vérité, parce que je connais des gens qui travaillent là-dedans, pareil, bon, Lance-Pierre, ils ont je sais pas combien de colis à faire entre 5h du matin et midi.
C'est vrai.
Bon, ils ont des camions pourris, jamais tu identifies que c'est un livreur, en fait,
oui,
parce que c'est ça
la réalité.
Ouais, c'est ça, voilà. Donc, parce que souvent, quand tu vas livrer dans une cité, ou dans une zone un peu chaude, tu vois. La réalité, c'est que tu vas livrer, tu montes dans le bâtiment, tu reviens, on t'a fracturé le camion aussi. On a tout volé ce qu'il y avait dedans. Donc après, c'est la responsabilité du livreur aussi, tu vois. Enfin, on le remet en cause parce que pareil, chez les livreurs, c'est comme pour les chômeurs. Il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui volent et qui disent qu'on leur a volé. Enfin, tu vois, il y a des abus partout aujourd'hui.
Quelle ville?
Non, c'est pas que à Marseille, c'est partout. Donc arrête de dire quelle ville étoilée pour laquelle tu marronnes.
À Paris, les postiers livrent partout.
Finalement,
on va aller écouter Anthony qui est un facteur qui nous appelle de Gironde et qui veut témoigner au 32-16. Bonjour Anthony. Anthony.
Bonjour.
Anthony le facteur.
On vous entend
Anthony.
Pas
facteur.
Oh.
Ça sert à rien de crier, hein, il t'entend pas.
Hein. Il est en train de faire la tournée.
Anthony, Tonio, Anto.
Ouais, il est parti.
Il est parti.
Il est libre.
Il est libre.
Il fait le coup du facteur.
Allô ?
Qu'est-ce qu'il fait, Anthony ? Bon, on va le retrouver dans un instant, Anthony. Le tout est de savoir, c'est un service public. Est-ce que la direction de la Poste peut obliger justement ses agents à livrer à la brigade. Non, mais parce que après tout, tu dis, écoutez, c'est un manquement, donc tu les obliges.
C'est la vraie difficulté. T'as une boîte publique. On parlait d'Amazon. T'as une entreprise publique, La Poste, qui fait la même chose qu'Amazon. Il y en a un qui a une mission de service public, La Poste, et qui a un cadre, notamment du droit de retrait, qui est extrêmement clair et pratiqué, on va dire, historiquement, culturellement dans la boîte. Et de côté, t'as une boîte privée avec, tu le disais, probablement des indépendants.
Pas de droit de retrait.
Pas de syndicat, pas de droit de retrait organisé, etc. Donc forcément, t'as une différence dans la pratique des gens. Après, ça renvoie...
Oui, mais alors donc Amazon fait du service public et La Poste en fait plus.
Moi, je pose une question. Parce que tu vois, tout ça, moi, quand j'ai vu ça hier aux infos, ça m'a un peu étonné parce que pour avoir vécu dans ces quartiers, pour y avoir travaillé, en général, les dealers, ils veulent pas de vagues. Tu vois, donc c'est pas eux qui vont attaquer parce qu'ils veulent pas que les feux des projecteurs dans leur cité où ils travaillent parce que c'est leur travail, tu vois, où ils gagnent très très correctement leur vie. Donc moi, je suis assez sceptique sur ça. Tu vois, et là, du coup, je te rejoins. Est-ce que c'est pas un désengagement de La Poste? Parce que oui, il y a des soucis de sécurité.
C'est le bon prétexte, en fait.
Exactement. Mais
livrer des colis, c'est rentable. Hein. Donc franchement, ouais, livrer des courriers, non. Mais livrer des coulisses, c'est rentable. C'est rentable pour Amazon, c'est rentable pour La Poste.
Oui, non, mais je te dis, est-ce qu'ils sont vraiment attaqués? Pourquoi ils se retirent, en fait? Parce que, tu vois.
Donc, c'est pas un
attaqué.
Alors, on va retrouver Anthony. Anthony.
Oui, bonjour tout le monde.
Vous étiez passé où, Anthony?
Pardon?
Où est-ce que vous étiez passé au moment où on vous a appelé? Là, vous étiez où, Anthony?
J'étais en train de juste vérifier, justement, ma tournée avant de partir.
D'accord. Mon cher Anthony, dites-nous, est-ce que vous comprenez La Poste du côté de ce quartier sensible, là, à la Bricarde, à Marseille, où on livre plus, alors?
Alors déjà, je voulais juste modifier quelque chose par rapport à ce qui a été dit par rapport aux avis de passage tout à l'heure.
Oui.
Il faut savoir qu'un facteur, il y a beaucoup de gens qui disent ça, c'est plus simple pour lui parce que c'est plus rapide d'aviser un recommandé. Je tiens juste à préciser que c'est plus chiant pour nous de ramener les recommandés, puisque c'est quelque chose de contrôlé, plutôt que de le distribuer. Voilà, je voulais le dire.
Mais c'est une réalité.
Peut-être, mais je peux vous assurer que c'est plus chiant pour nous de repartir avec le recommandé que de le distribuer. Alors, pour moi, c'est tout à fait normal, parce qu'on n'a pas l'impression comme ça. Mais c'est tous les jours qu'on risque, entre guillemets, notre vie. Quand c'est pas les chiens qui nous mordent, une tournée, il faut savoir qu'il y a plusieurs cas. Il y a des quartiers chauds, il y a aussi des maisons tranquilles, etc. C'est diversifié. Mais combien de fois un facteur est reparti sans son vélo?
Ah bon?
Où on se fait piquer le vélo, on se fait piquer la marchandise qu'on a, les courriers, les chéquiers qui étaient dedans. Et après, ben, c'est tous les gens qui sont sur notre tournée qui payent. Et c'est qui prend? Ben, c'est les facteurs. Et c'est La Poste qui est visée. Donc, à un moment donné, ben, effectivement, ils arrêtent de servir et c'est tout à fait normal.
Et du coup, Anthony, vous connaissez le contexte là-bas? C'est quoi concrètement le nombre d'attaques? Il y a un vrai problème là-bas?
Alors moi je suis à Bordeaux.
Enfin, d'accord,
je suis sur
Mérignac,
exactement. Donc on a des quartiers chauds. Ouais. Après moi je suis pas à Marseille, mais je peux comprendre certainement que si La Poste a fait ça, c'est que c'est pas la première fois que
Anthony,
dans ce quartier-là il y a des soucis.
D'accord, vous poser la question vérité, franche, Anthony. Demain dans votre tournée, vous savez que vous êtes sur un de ces quartiers chauds ou quoi que ce soit. Vous y allez ou vous demandez ou vous dites non, écoutez, moi je préférais qu'on me mette ailleurs. Dites-moi franchement.
Franchement j'y vais. Maintenant, si jamais j'ai un souci ou deux, je fais remonter à ma hiérarchie. Comme c'est déjà arrivé par le passé, hein, ça m'est arrivé de me faire pas agresser, mais faire attaquer par des chiens. Je peux vous assurer que vous êtes pas tranquille, vous êtes pas heureux. Maintenant, juste entre parenthèses, un chihuahua me fait peur, hein. Pour info, hein, quand vous faites attaquer par des chiens, maintenant vous avez peur. Mais non, je fais remonter à ma hiérarchie et on peut prendre la décision. On envoie. Alors, il faut le savoir aussi.
Donc, vous êtes solidaire de vos collègues. Vous êtes solidaire de vos collègues de la Bricarde.
Oui, et La Poste communique en disant bien que le quartier, tant que ça ne sera pas modifié, ne sera plus desservi. Il faut le savoir. Moi, comme je vous ai dit, je me suis agressé par un chien, deux chiens. Le propriétaire du chien, ils sont allés en voiture distribuer le recommandé pour lui dire que son facteur s'était agressé par ces deux chiens, qu'il n'aura plus son courrier, qu'il faudra aller le chercher dans un coin précis de La Poste.
Non, mais là, il y a une polémique par rapport à La Poste, mais il faut savoir qu'à la Bricarde, parce qu'on avait manifesté, on avait essayé de travailler... Il n'y a plus de centre social, tu vois. Donc, il y a l'école qui est dans un sale état. Je crois qu'il n'y a même plus d'épicerie.
Le désengagement de l'État, il n'est
voilà,
pas...
Voilà, en fait, si
il
tu
est
veux,
pas qu'à La Poste.
Dans ce type de cité, il ne reste absolument rien, à part l'école, quelquefois. Parce que des fois, l'école est en dehors de la cité pour des questions de sécurité, tu vois. Donc, au-delà de La Poste...
Je peux parler,
allez-y, bien sûr.
Je suis désolé, je ne savais pas si j'étais encore en antenne.
Non, vous êtes là.
Non, Mais ce que je voulais vous dire, c'est facile de taper sur la Poste. Mais pour moi, le problème, il remonte de bien mais plus
oui,
haut.
Bien sûr, ouais. Le problème, c'est pas la Poste.
Tout simplement. C'est facile de traiter à la Poste. Alors, ouais. Il faut savoir que je sais plus si c'était chez vous, parce que je suis tous les jours sur RMC du matin jusqu'au soir. Je sais pas si c'était chez vous ou Estelle Denis. qu'est-ce que je voulais dire? Il me disait, oui, mais Amazon, eux, ils livrent tous les jours oui. dans notre quartier, nanani, nanana.
C'est
oui,
ce que disait Jean-Baptiste Gébari, hein, à l'instant.
Sauf que eux, c'est pas pareil. C'est carrément une société à part, déjà d'un, et différente. Nous, on a des heures de service, on peut pas les modifier. Et donc, nous, la plupart du temps, dans les quartiers chauds, on n'y va pas en voiture. On y va soit en vélo, soit en stabi, comme le stabi, c'est un scooter à trois roues. Et si on se fait piquer le matos dedans, eh ben on est comme des cons. Excusez-moi.
Excusez-moi, c'est à Bordeaux que vous livrez un vélo et un trois roues. À Marseille, vous livrez en voiture. Ça n'existe pas le vélo.
Voiture blindée.
Marseille, ils connaissent pas le vélo.
Non mais.
On va vous envoyer David
oui,
Béliard.
Oui,
ça va
à la poste, dans le centre-ville, ils prennent. Dans le centre-ville, moi je vais être honnête avec vous.
Découvrir le vélo.
Dans le centre-ville, quand vous prenez le tram le matin, vous avez des postiers avec leur espèce de charrette qu'ils ont, etc. Donc dans le centre-ville. Mais après, en dehors du centre-ville, les cités sont loin les unes de les autres. Marseille, c'est une ville qui est montagneuse, ça monte, ça descend. Il y a pas de vélo. C'est pas vrai, ça n'existe pas.
Pardon. Le problème, le paradoxe dans cette histoire, j'écoute ce que dit Anthony, c'est que finalement, dans ces quartiers, la Poste se désengage, et il va rester Amazon. Donc c'est quand même, alors peut-être, moi je à la limite, ce qui compte pour le client, c'est d'être livré, hein, que ce soit Amazon ou la Poste à un moment donné. Mais bon, ça veut dire que ça pose la question de, on fait quoi de la Poste en fait? Est-ce qu'on privatise la Poste et la Poste devient, ça devient Amazon bis?
On va continuer d'en discuter. On va continuer d'en discuter avec Jean-Baptiste, avec Didier, avec Gauthier. Et je remercie Anthony pour ce témoignage aussi en toute franchise, notre ami facteur du côté de Bordeaux et de Mérignac. Merci Anthony et bonne tournée à vous.
Salut Anthony.
Soyez prudent. Dans un instant justement, Sam.
Pas de vélo à Marseille, moi, c'est ce que j'ai
appris. Qui est du côté de Marseille? Qui a travaillé à la Poste et qui nous dit, les gars, c'est pas un phénomène nouveau ce qu'on vit à la Bricarde. Allez, à tout de suite avec les Grandes Gueules.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules, c'est sur RMC, Story. À 11h, vous savez que désormais dans les Grandes Gueules, c'est vous qui choisissez notre sujet de discussion. À vous de choisir. Tout à l'heure à 11h, vous passez par internet rmc.fr, par notre site, et vous choisissez un des deux sujets, celui dont vous voulez que nous parlions ensemble. Empêcher l'accès des sites porno aux mineurs, est-ce que c'est faisable ou infaisable? Et puis ce qui se passe à Grenoble avec les menus 100% végétariens dans les cantines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les menus sont végétariens et il faut que vous cochiez l'option viande ou poisson.
Ce qui est drôle, c'est que les habitants de Grenoble ont dit non. Il y a 94%. C'est-à-dire qu'Éric Piolle, il s'est pris l'effet boomerang, là.
Alors, est-ce que vous voulez que nous en parlions?
Il a fait 6% comme les écolos aux élections générales.
Exactement.
Tout à l'heure, à 11h, venez nous le dire. En attendant, on continue d'évoquer ce qui se passe dans le quartier de la Bricarde, à Marseille, où la Poste a décidé de ne plus livrer ce quartier, qui est aujourd'hui ce que nous expliquait Gauthier, qui est une ce qu'on appelle un quartier compliqué, difficile, un quartier de deal, mais c'est pas que la Poste qui manque là-bas. C'est quasiment tous les services qui soient publics ou même privés, quoi.
C'est pas Amazon est là. Hein.
Sam qui nous appelle justement de Marseille. Bonjour Sam.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous êtes du côté de la Bricarde ou pas?
Excusez-moi, bonjour à ma voisine marseillaise.
Merci Sam, je vous embrasse.
Vous connaissez?
Ils se connaissent tous à Marseille,
bien sûr. Ah bon, d'accord. Vous n'êtes pas cousins.
Non, mais c'est comme le stéréotype de la sénatrice qui a appelé. Quand je parlais, elle croyait que j'étais Samia Gali. Et puis, je veux dire, à un moment donné, c'est une grande ville, Marseille, les gars. C'est pas un village.
Sam, vous êtes la cousine. Vous êtes la cousine de Cauter, Sam, je reconnais.
Non, je suis dans le 5e arrondissement de Marseille.
Dites oui, Marseille, Sam, parce qu'à Marseille, nous sommes une seule et grande famille. Que ça vous plaise ou non.
Alors bon, allez, Sam, parlons de ce quartier de la Bricarde où la Poste ne veut plus aller. Alors, est-ce que vous le comprenez ça ou pas?
Alors, ce que je voulais vous dire, moi j'ai 70 ans, je suis retraitée de la Poste, j'ai commencé à 25 ans comme inspectrice.
D'accord.
Donc j'ai à peu près tout connu, de Créteil à Marseille, dans la région, Manosque, Bandol, enfin tout ce que vous voulez. Et Marseille à peu près en particulier. Il y a 20 ans, il s'est passé la même chose dans les quartiers nord. C'est-à-dire qu'il y avait un livreur colis qui arrivait dans une cité et qui était à chaque fois contrôlé par certaines personnes. On lui fouillait son camion.
Oui.
Après, on lui volait les colis. on l'a malmené, parce que évidemment il s'est rebellé pour protéger ses colis, et donc on avait décidé d'arrêter de livrer les colis. Donc c'est pas nouveau.
D'accord, c'est pas nouveau. Mais oui, mais alors comment on règle le problème? Parce que c'est les habitants qui sont pénalisés, Sam.
Ah ben écoutez, moi j'en sais rien, mais il y a un autre sujet en parallèle, c'est au niveau des guichets. C'est pareil. La même chose si la Poste, hormis le côté financier et puis de M. Val, que M. Djibari a monté, a presque construit un mausolée alors que c'est une ordure parfaite.
Une ordure parfaite.
C'est l'excès marseillais.
Non, c'est. L'a subi, excusez-moi du terme, on l'a subi. C'est une horreur. C'est lui qui a transformé la Poste.
Oui, mais alors attendez, Sam, là, parce que.
Mais il a transformé la Poste parce que la Poste, le monde a changé.
Oui, le monde a changé.
Enfin, Sam, moi, je comprends tout à fait ce que vous dites, mais.
Le monde a changé, mais c'est lui qui a fait changer la Poste. Il aurait pu la faire changer différemment.
Mais si la Poste n'avait pas changé, la Poste serait morte.
Non,
objectivement.
On ne rentre pas.
Si, il faut rentrer dans le sujet de fond, Sam.
Non.
En vérité, il y a 20 ans, le courrier, Monsieur c'était une activité prédominante à la Poste. Le courrier est en dégringolade.
Laissez-moi parler. Monsieur Val.
Elle ne peut pas avoir raison toute seule, Sam.
Laissez-moi parler. Monsieur Val, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé toute la distribution. Il a bouleversé tous les bureaux de Poste. Il a voulu centraliser la distribution du courrier. Et d'abord, il a enlevé les colis, il les a mis à part. Il a laissé les lettres, la distribution. La distribution, il en a fait des centres. Et puis, ces centres-là, au bout d'un moment, quelques années plus tard, il a dit « Oh ben non, c'est pas terrible ». Donc, il les a supprimés pour créer des plateformes de courrier, comme celle de Vitrolles, par exemple.
Oui, d'accord, je veux bien.
Bon, il crée des bureaux, il supprime des bureaux, c'est même plus où on va. Moi, je travaillais il y a encore cinq ans. Et au moins, je travaille sur la plateforme de courrier de...
Sam, on dit souvent que les entreprises publiques ont du mal à anticiper les grandes mutations, et on le voit aujourd'hui sur un certain nombre d'entreprises publiques dans les secteurs importants, où il y a une crise et on gère la crise. Là, on a un patron d'entreprise publique qui a anticipé une très grande transformation mondiale. Ça arrivait partout. Le courrier en dégringolade.
Bah oui.
L'entreprise de la Poste, elle s'est mise effectivement à faire beaucoup plus de colis, elle a rationalisé le courrier, elle s'est mise à faire de la logistique, et elle a affronté des nouveaux géants mondiaux. Parce que Amazon. Le concurrent de la Poste aujourd'hui, c'est Amazon. Amazon, ça n'a pas 40 ans. Donc, pour une fois qu'on a un patron qui par ailleurs a beaucoup de valeur et qui n'est pas du tout la personne que vous avez décrite, et qui a anticipé stratégiquement ce qui allait se passer et qui a essayé d'adapter la Poste à la réalité de la mondialisation qu'on peut par ailleurs critiquer. Enfin, vous avez quand même
Sam, elle regrette finalement la Poste.
Elle regrette le monde d'avant.
Oui, mais sans vouloir défendre Sam, je peux entendre ce que vous dites sur la mutation de la Poste, parce que Amazon
c'est nous qui envoyons des mails, ce que je regrette,
un minimum de services d'État, mais qui soit tout confondu, qu'il y ait la Poste, qu'il y ait les impôts, qu'il y ait, en fait, c'est des maisons d'État dans des endroits qui sont désertifiés.
Ça s'appelle les maisons de services publics.
Il faut que ça se généralise parce que il y a des gens qui ont besoin de faire des démarches, qu'elles soient administratives.
Mais on a un peu schizophrène quand même en France, parce que on arrête d'envoyer les cartes postales, on arrête d'écrire du courrier, on commande comme des cochons sur Amazon, et on se plaint qu'après
la poste change.
Enfin, je veux dire,
je me plains pas de ça.
La Poste, elle évolue à la pratique.
C'est pas le sujet. Là, on parle d'un problème de service public. On va ressentir un peu les choses.
Merci Sam.
En fait, ce dont on parle, c'est un symptôme, en fait, dans certains territoires de notre pays, la République n'est plus présente, compris l'école.
Sur la sécurité, c'est
que ce soit dans des grandes villes, dans des zones rurales, pour des raisons qui sont différentes. Aujourd'hui, il y a une désertification du service public. Je t'ai dit, pour moi, c'est pas dos à dos entre ce qu'a dit Samia et la réalité, Samia Ghali. C'est deux réalités qui sont pas, antinomiques. C'est la réalité. Il y a un problème de sécurité de manière globale, mais si tu règles le problème de la Poste, tu n'as pas réglé les problèmes de ces endroits.
À mon avis, tu confonds deux sujets. Il y a le sujet, la sécurité des gens, protéger les gens, ça n'a pas changé en 40 ans.
Oui.
Protéger les gens, les personnes. Distribuer des allocations familiales, ça n'a pas changé depuis 40 ans. Faire du soutien pour retrouver un emploi, ça n'a pas changé depuis 40 ans. La Poste distribue le courrier, ça a changé drastiquement. Donc, t'as une entreprise publique qui s'est adaptée parce que le monde a changé, qui par ailleurs, en s'adaptant et en anticipant, a permis de générer du chiffre d'affaires, de garder des emplois, de transformer les métiers des gens pour garder des agents de la poste.
C'est bien ça.
Oui, mais le service public n'est plus présent.
Et on critiquerait un patron qui fait ça. C'est incohérent complet.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est.
Oui, mais l'insécurité, elle est là dans ces quartiers et c'est pas le problème de, finalement,
non,
de la poste.
On parle de désertification.
Il y a d'autres services qui sont désengagés.
Parce que lui, tu vois, il y a pas un problème de sécurité. Il y a pas un problème de sécurité où il habite. Mais il y a plus la poste quand même. Il y a un problème de désengagement de l'État dans certaines zones. Si.
C'est pas que la poste.
Toi, à Paris dans le 7e, tu crois que la France est Paris le 7e?
Moi, j'ai moins de poste parce que la poste aujourd'hui, on l'utilise moins. Moi, je veux bien qu'on maintienne la France comme elle était dans les années 50, mais le monde a bougé. Et du coup, ce que tu défends, Amazon continue à livrer dans ses quartiers.
Le monde a bougé. Moi, je pose une question.
Et ça bougera encore.
Tu sais quoi? Dès que tu rentres à Marseille, demain matin.
Et Marseille, il va falloir bouger aussi. Il va falloir évoluer.
Demain matin, je vais pas faire la poste à Paris. J'ai pas le temps. D'accord? Demain matin, quand je me lève et que mon fils va à l'école, je vais devant la poste. Et je te montre la queue.
C'est quand la dernière fois qu'on a une carte postale?
Mais je vais à la poste pour autre chose. D'accord? Je
oui,
vais pas
pour
à la poste.
La banque.
Non, parce que je suis pas
à la poste.
Non,
vierge bien.
En fait, c'est la banque des ports déjà. Et il n'y a pas tout le monde qui sait se servir.
Tout le monde à la poste pour des colis.
Voilà, il n'y a pas tout le monde qui s'est envoyé Internet, qui maîtrise Internet. Il faut arrêter. Il y a des personnes âgées, des personnes qui n'ont pas Internet à la maison, etc. etc. Il faut arrêter de fantasmer un monde. Aujourd'hui, quand tu vas à la poste, tu fais la queue, que ce soit dans les quartiers sud, dans les quartiers nord ou dans le centre-ville. C'est un endroit qui.
Pourquoi?
Je sais pas, je travaille pas là-bas. Excuse-moi, si tu veux, j'irai faire un sondage. Et je t'en parlerai lundi prochain.
Exactement.
Je vais dire
c'est
un truc.
Pas pour le courrier.
Je vais dire un truc. À hauteur, le monde va encore changer. Hein.
Oui.
Toute la génération qui naît aujourd'hui, elle est digitale par nature et probablement que ce qu'on vit aujourd'hui.
Oui, mais
c'est
les colis,
encore...
tu ne peux pas les recevoir de manière digitale.
Hein? Non, mais simplement les colis. Aujourd'hui, tu vas les chercher à ton Franprix dans un relais dépôt, à la poste.
T'as pas besoin d'aller à la poste pour chercher un colis
Amazon
aujourd'hui
qui livre dans des box. La poste fait pareil, etc.
Tu donc livré chez
probablement que y compris les modes de livraison qu'on connaît aujourd'hui vont changer. Dans
alors dans ces cas-là, je lance un appel à ton collègue, qui trouve un moyen, celui qui veut, parce qu'a priori, celui que tu nous as, dont tu nous as vanté les mérites, etc. Moi, je ne le connais pas.
Que ça,
le patron de la poste. Moi, je lui lance un défi pour aujourd'hui. Donner accès au service public de la poste aux habitants de la Bricarde. Et d'ailleurs, il fait comme il veut, par drone, par ce que tu veux, mais que les gens puissent récupérer leurs colis et pas à 30 km. Voilà.
C'est pas à 30 km.
C'est où alors?
Notez que Kauter
est pas.
Moi, je marche sur tout Kauter.
Contre
l'avion, mais pour les drones.
Pour revenir au sujet. C'est la provocation, en fait. Pour revenir au sujet, c'est qu'en fait, les gens n'ont plus accès à ce service public.
Ça va au-delà du service public. Parce que ce que tu nous disais, ça va au-delà. Je reviens, moi, au cœur du sujet.
C'est du quartier.
Comment ça se fait que c'est endémique à Marseille? Vous arriverez un jour à vous débarrasser de la violence et de ce qui se passe? Parce qu'on en est au 7e conseil interministériel.
Ça va plus loin que la poste.
5 milliards qui sont promis à chaque fois à la cité fonctionnelle.
Chaque fois que Macron y va. Si vous les avez, hein.
Mais Valls y est allé avec Hollande, Sarkozy y était allé, Macron y est allé, et à chaque fois on en revient au même problème.
Vous avez changé de maire.
La déshérence. Alors, je sais pas ce que fait votre maire aussi, hein, tu vois, mais.
La figuration.
Mais
il fait des choses contre le PSG.
Cela dit, je dis ça parce que je vous plains plus qu'autre chose, hein, effectivement.
Oui, mais on subit. Mais ouais, mais on subit. Voilà, parce que ça dépend pas des habitants, on va pas s'armer à coups de Kalachnikov pour aller faire la sécurité non plus, quoi.
C'est des habitants quand même.
Mais non, arrête.
Mais si, à un moment donné, mais si.
Je crois vraiment que c'est la majorité des Marseillais qui sont trafiquants et qui foutent le why.
Bah, déjà, tous ceux qui vivent du deal. Déjà,
ouais, mais c'est pas la majorité des Marseillais.
Tiens,
non, mais attendez, non. Deux secondes, on s'arrête sur ça. Herbel, je connais bien parce que j'y ai travaillé en tant que travailleur social et j'y ai habité pendant très longtemps. C'est la cité où on habitait le plus longtemps. Il y avait à l'époque 9000 habitants. Tu crois vraiment qu'il y a 4500, on parle que de la moitié, 4500 trafiquants? Arrête! Il y a 10 personnes qui trafiquent en fait sur 9000 habitants.
Et qui font vivre combien de personnes?
Ben, 10 familles. Ouais. 10 familles. Ah bah. 10 familles, c'est pas 9000 personnes.
Les 10 familles sont identifiées, pourquoi sont-elles encore là?
Mais c'est pas les familles, le problème, c'est les enfants. Il y a une... Moi, je suis désolée, j'ai été éduxpée. J'ai vu des parents exécrables avoir des enfants merveilleux. Et j'ai vu le contraire aussi.
Ouais.
D'accord? Il y a l'effet de groupe, il y a plein de choses.
Le désengagement, il n'est pas que la poste dans ces quartiers-là.
La poste, mais c'est pour ça, la poste ne livre plus le quartier de la Bricarde à Marseille. Est-ce que c'est abandon ou... finalement, ils font ce qu'ils avaient à faire, nécessité. Ben, on est plus dans le nécessité à 66% dans tous les cas pour ceux qui ont suivi notre discussion. Dans un instant, avec les grandes gueules, les indiscrets des ministres au dîner de rentrée de la majorité et puis le quiz des GG avec Anaïs Sens, notre productrice. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Baptiste Djebari, devenu patron d'une entreprise privée Opium qui fabrique des voitures à hydrogène. Nous sommes avec notre bourrin de Saône-et-Loire, Didier Giraud, agriculteur.
Bourrin de haute semence.
Je ne suis pas du tout dans les quins, monsieur.
Mais dans le bourrin.
C'est pas vraiment bourrin, ça.
C'est pour fêter ses 14 ans dans les GG, mon cher.
Termine
demain, ouais. Et puis, Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, est des nôtres aussi aujourd'hui. Et on y va pour les indiscrets des GG.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Les indiscrets, le rendez-vous du service politique d'RMC, Pierrick Bonneau qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierrick.
Bonjour à tous.
Et vous nous parlez d'un barbecue géant organisé hier soir en Seine-et-Marne.
Oui, un barbecue pour fêter la rentrée de la grande famille Renaissance.
La fête de la virilité.
Ex-République en Marche, vous allez voir
et
pourquoi
la protéine animale.
Famille presque au complet hier soir, un peu plus de 150 parlementaires de la majorité, une trentaine de ministres réunis dans une résidence Nature Cottage, un village vacances paumé au milieu de nulle part, résume un participant. Et au menu, donc, hier soir, saucisses, brochettes d'agneau, côte de bœuf pour tout le monde. Un clin d'œil à Sandrine Rousseau, très certainement. S'amuse un député de l'Est de la France, sauf qu'il n'y avait que des femmes derrière le barbecue. Voilà, référence évidemment au débat lancé il y a quelques jours.
C'est Aurore Berger qui faisait les chipolatas?
Non, Aurore Berger chantait, on va en parler dans quelques secondes.
Alors, justement, l'atmosphère détendue, studieuse.
Eh bien, plutôt détendue, hein, en croire les quelques parlementaires qui ont raconté la soirée au service politique d'RMC. On a visiblement parlé budget un petit peu à la table de Gabriel Attal. Du 49-3 et du risque de dissolution à celle de Franck Riester, le ministre en charge des relations avec le Parlement. Mais pour le reste, on n'était pas là pour écrire des amendements, confie un député. D'ailleurs, la rentrée parlementaire, hein, ce n'est que le 4 octobre prochain. Et puis la première ministre, ovationnée à son entrée, avait prévenu qu'il s'agissait d'un moment convivial, rien de plus, pas de discours.
Et Madame Borne, la convivialité, c'est son truc.
Voilà, pas de discours et un karaoké pour couronner la soirée.
Ça c'est plus intéressant.
Aurore Berger, j'ai un scoop à vous donner. Il paraît que la présidente du groupe Aurore Berger et le ministre de la Mer Hervé Berville ont enflammé la piste sur Jean-Jacques Goldman. Voilà.
Pourquoi t'as choisi ce titre, Je marche seul?
Je sais pas, c'est un hasard.
C'est pour lequel des deux?
Et la première ministre a fait du Patrick Hernandez?
Je ne sais pas non plus, mais il était formellement interdit. Il était interdit.
On l'avait pas mal.
On sait pourquoi il était interdit de prendre des photos et des vidéos pour pas que ça fuite dans la presse.
Mais c'est dommage.
Quelques images ont quand même fuité. Hein. Ambiance kermesse, bungalow et bottes de foin. Voilà.
Mais on les a pas.
Bottes de foin?
On les a pas.
Ça sert à quoi la botte de foin dans la garden party du Palais Bourbon? Explique-moi.
Là, on
sommes en Seine-et-Marne.
On était en Seine-et-Marne, au fin fond de la Seine-et-Marne. Ça va plutôt te plaire.
Oh, le fin fond de la Seine-et-Marne.
Il paraît qu'il y avait des.
C'est la grande banlieue quand même, la Seine-et-Marne.
Ils auraient pu aller dans le Creusot, par exemple, tu vois.
Non, dans la Creuse.
La Creuse, là.
Au moins, je serais sûr que les côtes de bœuf sur le barbecue, c'était des vrais.
Monsieur Djebari, vous, l'ancien ministre.
Racontez-nous.
Est-ce que vous avez participé à ce type
J'ai participé aux fêtes de la viande et de la Renaissance. Ouais, quasiment chaque année, on faisait ça. Et c'est vrai qu'en gros, ça parlait quand même pas beaucoup boulot. Mais c'était des moments intéressants parce que souvent, en fait, les parlementaires de la majorité voient peu les ministres et ont peu l'occasion de discuter un peu avec eux. Donc, objectivement, c'est plutôt sympa.
C'est un truc de cohésion.
C'est le stage de cohésion de début.
En général, t'invites des gens qui te permettent de donner un éclairage géopolitique. Enfin, t'as pas mal d'invités. J'ai vu quelques personnes là qui étaient venues faire des speeches. Donc, un peu de débat politique, c'est pas mal. Dans une famille qui parfois n'admet pas tout à fait.
Non, puis faire des barbecues, c'est montrer l'exemple quand même. Moi, je crois que c'est bien.
Éric Piolle a été invité, je crois, mais il a décliné.
Pas,
pas de menu végétal.
Alors, puisque tu parles de famille, on parlait hier des 50 ans du Rassemblement National, et on a des détails des proches de Jean-Marie Le Pen sur la fête que va organiser le président fondateur chez lui à Montretout.
Ouais, une contre-soirée. Hein. Ouais. Il n'est pas invité au colloque que le parti va organiser autour du 5 octobre. Donc Jean-Marie Le Pen va organiser une garden party dans la résidence familiale des Le Pen en région parisienne. Ce sera le 22 octobre. Hein. Cochez la date sur votre calendrier si.
Il pleut le 22 octobre. Il pleut à plein temps. Dommage.
Il y aura un barnum a priori. Selon son entourage, le père de Marine Le Pen a baptisé l'événement Ranimer la flamme. Le message est très clair. Ça veut dire qu'ailleurs, on a l'impression qu'elle s'est éteinte. La flamme confie à un proche de l'ancien président du FN. Et tout le monde sera invité, invisiblement. Même Marine Le Pen, si elle le souhaite. Elle est chez elle à Montretout, rappelle ceux qui assurent la communication de son père. Ranimer la flamme, la garden party de Jean-Marie Le Pen. Entrée sur inscription, hein, dans la limite des places disponibles, 200 à 250 personnes maximum.
Enfin, tous les leaders ont dit qu'ils n'iraient pas. Louis Alliot a dit qu'il ne ferait pas la fête chez Jean-Marie Le Pen. Bardella, pareil. Donc,
j'ai eu un cadre au téléphone qui m'a dit, un cadre historique qui m'a dit, si Jean-Marie m'invite, moi,
ça sent quand même le champ du cygne, cette affaire.
Bah,
Oui, je pense que tu voudras pas être pris en photo avec le patriarche au moment où tu as 89 députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale sur...
Que tu joues 2027.
Voilà, le thème de on a tourné la page, on passe à autre chose et on a 2027 à préparer, quoi.
Non, non, et puis c'est... un petit côté quand même pique-nique des losers.
C'est la fin, quoi. Qui a emmené 89 députés à l'Assemblée nationale, c'est Marine Le Pen. Elle a battu son père. Son père avait emmené une trentaine de députés dans les années 80, 36, ouais, lorsqu'on était passé à la proportionnelle. Mais là, avec un scrutin majoritaire, elle a réussi l'exploit de faire élire 89 députés. Mais, sincèrement, je pense que là, on a définitivement changé d'époque.
Mais elle n'est pas partie de rien. Elle a hérité.
L'électeur aujourd'hui de Marine Le Pen, sincèrement, je pense que Jean-Marie Le Pen, c'est loin. Le problème. C'est loin. C'est loin.
Surtout les jeunes.
Notamment les jeunes qui votent Rassemblement National. Et ils sont.
Il y en a beaucoup.
Ils s'abstiennent, mais parfois aussi ils votent RN. Et je pense que même Jean-Marie Le Pen,
c'est les anciens contre les modernes qu'on retrouve d'ailleurs dans à l'élection interne pour la présidence, Louis Alliot face à Jordan Bardella.
Mais l'historique. Enfin, à un moment donné, il faut savoir d'où tu pars, tu vois. À un moment donné.
Oui, la base électorale, elle a été créée par son père, mais elle a évolué.
Oui, bien sûr qu'elle a évolué.
Le discours a évolué, notamment le discours économique.
La dédiabolisation entreprise par Marine et puis Philippot à l'époque. Elle a apporté ses fruits à la dernière.
Merci Pierrick. Monsieur Pierrick Bonneau, tu vas laisser la place à notre productrice Anaïs Sainz, le moment que la France virile du barbecue attend.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Quoi? Énorme carton jaune. Moi, ça marche pas.
Hein? Mais tu vois, je t'ai dit.
Ah, là,
je t'ai
pour cette vanne déplacée. Bonjour Anaïs.
Bonjour à tous.
Cette vanne cisgenre hétérosexuelle.
Exactement. Non, sifflet, carton jaune. Les GG, il y en a un qui a compris comment faire parler de lui, qui a récidivé avant-hier soir à l'Olympia.
Ah, l'humoriste franco-canadien, belge.
Alors, franco-américain, mais pas humoriste, c'est un DJ.
Le DJ.
C'était pas loin, Jean-Baptiste. Il avait fait parler de lui à un festival au Touquet. Marc Rebillet, le DJ qui a remis ça hier en insultant de nouveau Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter. Ça dure un certain moment et après la musique commence et sur peut-être 2 minutes c'est Macron.
Comme disait l'autre. Et on fait combien?
Et là c'est Macron qui sort des coulisses.
En tout cas,
c'est combien le défouloir à l'Olympia?
Le prix de la place je sais pas, mais en tout cas il était à l'affiche à l'Olympia.
C'est assez limité
cette semaine,
quand même.
Comme
répertoire.
Non mais il faudrait savoir ce qui
c'est fin, ça se mange sans fin comme disait l'autre.
Les GG, Emmanuel Macron justement qui a appelé tous les Français à la sobriété énergétique. Est-ce que vous savez ce qui vous coûte le plus cher en termes de consommation énergétique
à la maison?
Ouais, à la maison.
Le sèche-linge.
Non, c'est pas le sèche-linge.
Si.
Non.
Le lave-vaisselle.
Le frigo.
Le four.
C'est le chauffage électrique. Évidemment,
ah oui.
Vous êtes chauffé à l'électrique. Mais sinon, c'est le ballon d'eau chaude.
Ah 292
euros. S'il est électrique,
donc c'est le bain. Il faut
204,
arrêter le bain.
Bah oui, 292 euros Salman. Par an. Mais sinon, alors il y a une astuce, juste baisser la chaleur de l'eau, mettre au maximum à 55 degrés le ballon d'eau chaude, ça permettrait de faire
plusieurs toilettes. Il y a des gens qui ont des trucs à se faire enfouir sur les toilettes. Parce que je crois que c'est 90 litres d'eau à chaque chasse. C'est dur à dire.
Non.
À chaque chasse.
Bah, attends, une
100
chasse d'eau de 90 litres. Imagine,
90 litres par jour ou un truc comme
ça. C'est énorme. Et je crois qu'il y a un mec qui a inventé un truc dans lequel tu peux recycler l'eau de la chasse pour faire ta douche.
Mais je
vais faire l'inverse.
Moi, je préfère l'inverse.
Si jamais il y a une panne.
Non, parce que si c'est l'eau des toilettes qui fait l'inverse, moi, je veux l'inverse. Moi, je veux bien
que l'eau. Mais ça aussi, je
dans la merde.
Je me disais, non, mais. C'est une nouvelle manière de construire. 9 litres d'eau,
je dois oublier. Je pense que l'eau est un enjeu. Ouais, c'est pas 90, c'est 9 litres dans une charge, je pense. Et le recyclage, par exemple, le recyclage de l'eau de pluie pour alimenter une chasse d'eau, ça me paraît être quelque chose qui doit évoluer dans les constructions modernes, quoi.
Les GG, qu'est-ce qui vous coûte le moins cher? Est-ce que vous pensez que le téléphone portable vous coûte cher en termes de consommation d'électricité? Combien par an, à votre avis, le téléphone? Le rechargement, évidemment.
14 euros.
Moins de 14,
c'est rien.
7,
50 centimes.
Oui, donc c'est rien. Ouais,
ça dépend le prix de ton
cher,
kilowatt.
En fait. Non, mais ce qui coûte cher, c'est la prise qui reste.
Et le frigo.
Le frigo, sèche-linge, 59 euros par an. Alors, la climatisation d'un point, bon, évidemment, c'est pas toute l'année. Mais alors, tout le monde s'est rué dessus. Cet été, c'est un gouffre, 188 euros par an. On enchaîne.
Énorme.
quel ancien ministre a été recruté par une start-up ?
De Normandie.
Julien. Le premier, Julien. L'ancien ministre de l'Agriculture a commencé cette semaine chez Sweep, start-up de consulting en réduction des émissions de carbone pour les entreprises. On est complètement dans l'air du temps. Il a été nommé directeur en charge d'évaluer l'incidence de l'activité des entreprises.
Mais moi, je suis contente qu'on ait des jeunes ministres, tu vois, comme toi et comme lui, tu vois, qui ne se contentent pas de considérer la politique comme un métier ad vitam aeternam et qui se remettent dans la vie professionnelle comme les Français.
Comme Jean-Baptiste.
Noté quand même. Exactement. Que j'ai initié le mouvement, mais qu'il y en aura d'autres, parce que Cédric O est aussi en train de lancer une start-up. C'est l'ancien secrétaire d'État au numérique, donc Julien et moi. Enfin, moi, je suis
donc il n'y a pas de coup les fromages de la République pour recycler les ministres.
Exactement.
Et Jean-Baptiste est d'ailleurs accordé.
Mais c'était un peu... oui. Je vais peut-être ruisseler du coup un petit peu sur mes anciens collègues. Non, mais du coup, c'était quand même un peu la promesse originelle. Hein. En 2017, moi, je rappelle qu'on a fait partie d'une génération qui a dit on vient faire de la politique, on le fait intensément, et après, on fait autre chose. Donc, il y en a quelques-uns d'entre
bravo,
nous.
Et je vous rappelle
que sur les 45 que vous étiez au gouvernement, il y en a que 3 qui l'ont fait.
On c'est enchaîne. Un bon début. Combien de temps faut-il pour relier Nantes depuis Paris en char à voile ?
Ah, hop. 14h27, avec le vent dans le dos.
Non, c'est moins de ça, mais on n'est pas loin. 9h, avec effectivement
c'est dur.
Un vent favorable, parce qu'il y a quand même 384 km à parcourir. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Fédération nationale de chars à voile, Christophe Roger. Mais justement, il est avec nous, les GG. Christophe, bonjour. Quel beau coup de projecteur sur la discipline. Vous pouvez peut-être remercier le PSG, du coup.
Effectivement, bonjour à tous.
Bonjour.
Au nom de la Fédération française de chars à voile, merci Monsieur Galtier, merci Kylian Mbappé, et merci évidemment le club du PSG. Écoutez, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de retours médias grâce à cette intervention. Alors effectivement, on en plaisante en disant oui, on pourrait évidemment imaginer d'aller de relier Paris à Nantes en char à voile. Bon, ça nécessiterait peut-être quelques aménagements, notamment regarder les hauteurs des ponts qui enjambent l'autoroute, parce que peut-être que nos mâts n'arriveraient peut-être pas à passer dessous. Ensuite, il faudrait aussi peut-être imaginer qu'on ait un vent bien régulier et surtout bien orienté. Et là, voilà, on pourrait peut-être imaginer... c'est une plaisanterie, c'est une boutade, bien évidemment.
Didier, Monsieur Roger, je suis pas météorologue professionnel, mais je suis quand même un petit peu la météo. Le vent de nord-est qui emmène un char à voile de Paris jusqu'à Nantes, il souffle pas bien des jours dans l'année, ce vent de nord-est. Hein.
Oui, vous avez parfaitement raison. Et c'est...
Il faudra tirer des bords.
Exactement.
Et par ailleurs, c'est crevant le char à voile.
C'est ce que j'allais vous dire.
T'en as fait, toi, du char à voile,
Jean-Baptiste Dubarry. Ça tétanise les mains, donc ça veut dire que les joueurs du PSG, quand ils vont arriver après 9h.
Ils sont nazes.
Ils feront plus de mains, du coup. Parce que
c'est physique, le char à voile.
Hyper physique.
Tout le monde peut en faire du char à voile, Christophe, parce que puisque là, il y a un focus sur cette activité, les enfants, les adultes, les femmes, les hommes.
Absolument. On accueille des enfants, on va dire, à partir de 6-7 ans, et on a des pratiquants au-delà de 80 ans qui font une pratique loisir régulière. C'est excellent pour la santé.
Continuons.
Vous avez invité les joueurs du PSG à venir faire un stage.
Oui.
Alors,
ça
fait partie aussi de nos objectifs. On va proposer donc aux joueurs du PSG. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs dans leur contrat d'assurance, il est possible qu'ils puissent pratiquer notre discipline, parce que peut-être y a-t-il certains dangers aux yeux des assureurs. Mmh. Mais de toute façon, nous allons leur envoyer une invitation afin qu'ils puissent découvrir notre discipline.
C'est
énorme. On va leur proposer d'aller en région parisienne, puisque nous avons, sur les anciennes bases aériennes au Plessis-Pâté, la possibilité de leur présenter notre discipline.
Oui, parce que j'ai été surpris hier au Parc des Princes. On était au parc avec Alain. Il y a un char à voile qui était... Alors, il y a des petits rigolos qui ont réussi à...
C'est Greenpeace.
A porté un char à voile près du parc. Mais on peut faire du char à voile en région parisienne ?
Absolument. Nous avons implanté notre nouveau siège de fédération et nous avons également un club de char à voile qui s'est installé. Et on peut le pratiquer, notamment en loisir, mais aussi apprendre en école de char à voile. D'ailleurs, le type de char que vous avez à l'écran, ce sont des chars écoles.
Merci Christophe Roger, merci d'avoir été avec nous. Merci. Invitation lancée aux joueurs du Paris Saint-Germain. Dans un instant, avec les grandes gueules, à vous de choisir de quoi voulez-vous que nous parlions. Le menu 100% végétarien dans les cantines à Grenoble ou empêcher l'accès des sites porno aux mineurs. Est-ce que c'est faisable? À tout de suite, on verra.